France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Et au téléphone sonne ce soir, la santé mentale, grande cause nationale des gouvernements Barnier puis Bayrou. On va se concentrer ce soir sur la santé mentale au bureau, car les derniers chiffres ne sont pas bons. Ce serait même une mauvaise surprise à en croire les spécialistes qui s'attendaient donc à moins de stress, moins d'anxiété cette année parmi les salariés. Alors de quelle souffrance parle-t-on chez les salariés? Entre le burn-out, le bore-out, le blur-out, pardon pour ces anglicismes, qui gravite autour de la dépression. Et je vais ajouter un sigle, bien français celui-là, le QVCT pour qualité de vie, conditions de travail. Face à ce coup de mou au bureau, que valent les plans de prévention? Eh bien, nous verrons ce qu'ils englobent aussi. On va donc commenter ce soir cette dernière étude enquête Ipsos pour le cabinet Cali Social sur la santé mentale au travail, stress et anxiété au bureau. C'est le thème de ce soir. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne 01 45 24 7000.
Avec une première auditrice en ligne. Bonsoir Clara.
Bonsoir.
Quelle est votre question ou votre témoignage?
C'était plutôt un témoignage, c'était pour vous dire, voilà, donc moi ça fait depuis janvier 2024 que je suis en burn-out. J'ai eu la chance d'être prise en charge par un hôpital de jour qui s'appelle Psypro et qui est vraiment merveilleux, qui se concentre sur les psychopathologies du travail. Et vraiment, c'est un hôpital de jour qui m'a énormément aidée. J'y suis encore actuellement et je vois des gens complètement changés en ressortir. Et donc voilà, je voulais mettre en lumière notamment le travail de Psypro.
Très bien, on a entendu ce travail. On peut savoir pourquoi vous êtes en burn-out? Est-ce que vous l'avez pointé du doigt?
Oui, alors moi, c'est vraiment, de mon côté, c'est vraiment une accumulation de plein de choses. J'étais directrice d'une école de musique associative. Donc, il y avait le côté associatif où on est avec des bénévoles qui n'ont pas forcément le même temps que, on va dire, un chef d'entreprise normal. Et puis, toute la pression liée à tout ce qui était direction. Le contact avec les parents d'élèves, etc.
Merci.
Des soucis personnels. Voilà.
Bien, merci. Merci de ce témoignage. Avec ce soir, deux invités pour vous répondre. Camille Puech, vous êtes le président fondateur du cabinet Cali Social, qui vient donc de publier ce baromètre annuel sur la santé mentale des salariés. Et puis Christophe Nguyen, bonsoir à tous les deux. Vous êtes bonsoir. Psychologue du travail, également président du cabinet conseil Empreinte Humaine. Alors, ce que dit notre première auditrice Clara, c'est qu'il y a pas mal de pression. Je vais rappeler juste un chiffre, Camille Puech, pour commencer. Un salarié sur quatre se déclare en mauvaise santé mentale. Notre auditrice parle de pression. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a autant de pression en ce moment au travail?
Alors, il y a plusieurs facteurs qui jouent sur la dégradation de la santé mentale au travail et le fait qu'on ait une santé mentale dégradée. Alors, il se trouve que son témoignage est intéressant parce qu'elle nous parle qu'elle travaille dans deux secteurs qui sont particulièrement exposés à la dégradation de la santé mentale, qui sont l'enseignement et le secteur associatif.
Et à chaque fois, il y a un contact avec le public.
Et le contact avec le public, tout à fait, ce sont des facteurs de risque qui augmentent la pression que l'on subit. Et puis c'est pas forcément, c'est intéressant dans son message aussi, parce que la pression, c'est pas celle que lui impose son manager. Elle a une pression qui lui est imposée par les bénévoles, par les familles, par en fait l'environnement dans lequel elle évolue et qui vient dégrader sa situation jusqu'à ce burn-out dont elle nous a fait part.
Christophe Nguyen, psychologue du travail, président du cabinet conseil Empreinte Humaine, quand on parle de souffrance au travail, en fait, de quels symptômes parle-t-on précisément?
Oui, c'est un terme assez large, hein, finalement, qui regroupe souvent, on va dire, la question des troubles dits anxieux. Donc, le stress, anxio-dépressif, la dépression et le burn-out, qui est un peu la phase ultime de l'épuisement et lié au stress dit chronique, c'est-à-dire une exposition prolongée à un stress pas forcément très intense, mais finalement sans période de récupération ou d'arrêt ou de pause. On voit aussi qu'une des causes importantes et majeures qui existe, c'est la question du sens, hein, qu'on trouve dans son travail ou qu'on ne retrouve plus, et qui, finalement, ne protège plus quant aux exigences, ne permet plus de faire face aux exigences normales du travail. Et ce sens est lié au fait qu'il y a une question d'intensification de la charge de travail que beaucoup d'études nationales montrent et qui finalement dégrade la question de la qualité de ce que je fais. Est-ce que je suis fier de ce que je fais? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est utile? Et aussi, est-ce que je suis reconnu? Rajoutant qu'il y a un contexte exogène qu'on connaît tous, lié au marché, au monde du travail.
Et on va en reparler de tout ça. On va retourner au standard avec Jean-Pierre qui nous appelle. Bonsoir Jean-Pierre.
Oui, bonsoir Eric, vous m'entendez?
Très bien, vous êtes à l'antenne. Un témoignage ou une question?
Ah ben moi c'est un témoignage, donc moi je suis formateur, je suis responsable d'un organisme de formation qui a en charge de former les membres du CSE dans les entreprises. Donc, principalement sur une formation qui s'appelle Santé, Sécurité et Conditions de Travail, pour une formation qui est obligatoire. Et je constate quand même depuis plusieurs années maintenant que quand on aborde la thématique des risques psychosociaux, les gens ont énormément de choses à dire et je sens une souffrance qui est palpable. Pour tous les groupes, j'utilise un petit outil qui est assez intéressant, qui est un outil de prévention, le Maslach Burnout Inventory. Et je dois vous dire que de plus en plus, les résultats me disent que les gens sont dans le rouge. Voilà, les gens sont dans le rouge pour...
Oui, pardon, je vous coupe, mais je voulais vous remercier de ce témoignage. On a bien compris que vous aussi, donc, à la formation de ce qu'on appelait avant les comités hygiène-sécurité, maintenant les CSE, eh bien là aussi, il y a du stress. Notre auditeur vient de parler d'un outil, je vous ai vu acquiescer tous les deux. Et quel est cet outil qui évalue le taux de stress au travail?
Alors, c'est particulièrement sur le burn-out, l'outil qu'il a évoqué, et en fait, qui évalue, si vous voulez, la probabilité que la personne fasse un burn-out, donc c'est le niveau de risque du burn-out, c'est l'objet de cet outil. Et ce qu'il décrit, il dit, je constate que ça se dégrade, ça va de mal en pis. En fait, on constate dans toutes les études que oui, la situation se dégrade. Santé publique France avait notamment mené pendant la Covid l'administration d'un autre outil sur les troubles anxieux et dépressifs qu'évoquait Christophe tout à l'heure. Et quand on regarde les chiffres avant la Covid, et ce qui s'est passé pendant la Covid, et ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on s'attendait à ce que ça redescende.
Les experts
mais ça ne redescend
comme vous
pas.
S'attendaient à des meilleurs résultats. Qu'est-ce qui a joué?
En fait, on a eu la Covid. Donc déjà, la Covid a provoqué presque x2 de problèmes de personnes en état anxieux et de personnes en état dépressif. On est sur ces ratios-là, on est passé de on est monté jusqu'à une personne sur 5 en état dépressif, alors qu'avant on était plutôt sur une personne sur 8, une personne sur 10. La crise est passée, on a eu des facteurs qui ont favorisé la survenance de ces risques-là et on pouvait expliquer pourquoi l'anxiété et la dépression montaient. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand ces facteurs ont disparu, ils ont été remplacés par de nouveaux risques. On parlait de la crise économique, la crise géopolitique avec l'invasion de la Russie en Ukraine. Il y a
de l'intelligence artificielle qui va peut-être remplacer.
Et maintenant, on se retrouve 2024, qui devait être une année où les choses se stabilisaient un petit peu. On s'est récupéré deux nouvelles facteurs qui sont venus générer des incertitudes chez nos concitoyens, l'intelligence artificielle et puis le gouvernement, la dissolution.
L'instabilité politique en ce moment en France. Christophe Nguyen, on a parlé de burn-out, c'est l'épuisement, le bore-out, c'est l'ennui au travail. Le blur-out, cette espèce de brouillage chez un salarié, on l'a un peu entendu dans les premiers témoignages. Qu'est-ce que c'est que ce blur-out, brouillage?
Alors, il y a beaucoup de néologismes pour décrire les mots
Et d'anglicisme,
du travail, d'anglicisme, effectivement. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est des termes qui ne sont pas reconnus par la communauté scientifique et les psychologues. Il n'y a que le burn-out qui aujourd'hui est reconnu, qui fait l'objet...
C'est une dépression?
Le burn-out, non. On va dire. Ça peut ressembler à la fin, dans la phase ultime, mais si vous voulez, dans la façon dont apparaît le burn-out, on n'est pas du tout sur les mêmes processus que par exemple la dépression. Dans le burn-out, c'est plutôt des gens très brillants, reconnus, très engagés dans leur travail, qui voient le stress comme un challenge, si vous voulez. Et qui, quand il y a un nouveau défi, une nouvelle difficulté, un nouveau stress, se shootent parfois au stress positif, eh bien, se mettent en difficulté parce qu'ils négligent leurs facteurs dits de protection, leur famille, leur temps de repos, et ils ne font que travailler jusqu'à un moment où on a arrive à un stade ultime où on n'a plus de carburant et on explose, si vous voulez, et on s'écroule. Et après, quand on n'y arrive plus, d'une certaine façon, on peut tomber en dépression parce qu'on n'arrive plus finalement à être efficace au travail et notre estime est atteinte. Mais c'est un processus d'apparition complètement inverse de la dépression. Mmh. Et d'ailleurs, le questionnaire dont on parlait, qui était mesuré par votre auditeur qui l'utilise, montre bien ce processus-là. Donc c'est vraiment celui qui est plus reconnu. L'autre montre plus la question de l'ennui. Il y a aussi cette dimension de ne pas trouver du sens dans ce qu'on fait en tant que tel. Mais vraiment, j'invite vraiment les auditeurs à utiliser les bons termes et pas
tout reconnaître. Et bien, sur cette perte de sens, on va rejoindre Marie-Thérèse qui nous appelle de Bretagne. Bonsoir Marie-Thérèse.
Bonsoir. Donc moi, je voulais parler effectivement de la perte de sens du travail. Je suis assistante sociale et notre métier, c'est la relation humaine, l'empathie, l'accompagnement des personnes. On est de plus en plus amené à faire des tâches administratives avec des logiciels qui ne sont pas du tout intuitifs pour nous. On n'a pas été formés pour ça et on nous fait glisser sur des tâches comme ça qui deviennent maltraitantes. Enfin, moi, à des moments, je suis épuisée de voir que je perds mon temps sur des choses comme ça, alors que je m'éclate à faire autre chose et que mon métier pourrait avoir du sens et qu'il perd. Pareil, on travaille en protection de l'enfance sur d'autres domaines où on voit que derrière, il n'y a pas les moyens. Donc, on sait qu'on a des enfants en souffrance dans des familles et on voit que rien ne se passe. Et c'est très dur, au bout d'un moment, de rentrer chez soi comme ça. Voilà. Mais
merci.
Pourtant, j'ai des années d'expérience. Voilà.
Merci, Marie-Thérèse, pour ce témoignage. Je me retourne vers vous encore, Christophe Nguyen, parce que cette auditrice parle de maltraitance, notamment parce qu'elle a dû réorienter, ou on l'a mal réorientée sur de nouvelles tâches. Et ça, c'est assez catastrophique.
Oui, et les psychologues du travail, ils appellent ça les empêchants. Hein, ce qui nous empêche finalement d'être efficaces et de faire ce qu'on aime. On a vu aussi dans la crise des agriculteurs la même chose. Hein, ils expliquaient qu'ils passaient trop de temps à faire de l'administratif et du réglementaire. Et ce que décrit votre auditrice, c'est ça. C'est que elle, ce qu'elle aime, c'est passer du temps avec les personnes, le maximum de temps, pour les écouter, les accompagner. Et ce qu'elle déplore, c'est qu'on lui met des outils et une charge administrative, finalement, qui l'éloigne de ça. Donc, non seulement elle passe moins de temps, mais en plus, elle dit qu'elle n'a pas d'impact, finalement, sur les personnes qu'elle devrait accompagner.
Camille Puech.
Oui, et ça revient, c'est typiquement dans ce type de témoignage, on retrouve un risque de burn-out. Il y avait une définition du burn-out qui disait le burn-out, c'est l'état de fatigue ou de frustration causé par le dévouement à une cause, à un mode de vie ou à une relation qui n'a pas répondu aux attentes. Et ce qu'elle nous décrit, c'est qu'elle fait son métier parce qu'elle a des convictions. Elle est très engagée justement pour les gens qu'elle accompagne et qu'elle aide. Et la manière dont on lui demande de faire son travail l'empêche d'atteindre cette engagement, et il peut y avoir cette frustration qui peut l'amener justement à cet épuisement professionnel.
Frustration, et un autre mot que j'ai noté dans la bouche de Marie-Thérèse, c'est l'empathie. Le plus en plus de manque d'empathie, j'imagine, peut-être de la hiérarchie.
Pas forcément. Que la hiérarchie, mais elle est dans un métier d'empathie où d'ailleurs on parle parfois de souffrance émotionnelle et de fatigue compassionnelle. Donc on voit que d'ailleurs le burn-out aujourd'hui, on en parle partout dans tous les secteurs du travail, mais a été principalement au début étudié dans le secteur du social. Les infirmières qui effectivement n'arrivaient plus à pouvoir soigner et accompagner du mieux possible.
Vous parlez des infirmières, je parlais des femmes en général, parce qu'elles sont dans votre enquête, Camille Puech, plus impactées que les hommes par le stress au travail. Pourquoi ?
Alors, il y a plusieurs facteurs, mais effectivement, les études, là, et la dernière qui date donc qui vient de sortir là pour l'année 2025, montrent que effectivement les femmes ont une perception de santé mentale et ont des niveaux de stress supérieurs, enfin le stress supérieur aux hommes et la perception de la santé mentale comme étant plus mauvaise que les hommes. Il y a plusieurs facteurs qui jouent à ça. Déjà, il y a un premier facteur qui est que les femmes sont plus vigilantes à la santé que les hommes. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les hommes vivent moins longtemps que les femmes, parce qu'ils ont plus de comportements à risque, tout simplement. Si les hommes faisaient un peu plus attention, ils vivraient 5 ans, 6 ans de plus. Et l'autre facteur, c'est l'ensemble des injonctions paradoxales auxquelles les femmes sont confrontées plus que les hommes, qui ont sont exposées à moins des situations plus simples à gérer. Et donc les femmes ont cette surexposition. On le constate chez les femmes par rapport aux hommes. Et on constate aussi des chiffres dégradés chez les jeunes. Et ce qui est très intéressant, c'est que les seniors ont une meilleure santé mentale que les jeunes. Et ça, c'est super important.
Et comment on l'explique, ça ? Est-ce qu'on a une explication ? Pourquoi les seniors seraient mieux charpentés pour affronter le stress au travail ?
Il y a un facteur. Le facteur qui, aujourd'hui, donc l'étude là, qu'on a menée avec Ipsos, montre qu'on a un Français sur 4 qui s'estime en mauvaise santé mentale. Et le facteur qui influe le plus cette année, c'est l'absence de confiance en l'avenir, ou la confiance dégradée vis-à-vis de l'avenir. Et donc, il y a plusieurs composantes de la santé mentale. La confiance en l'avenir, c'est déterminant.
Et vous l'avez cité tout à l'heure, c'est le contexte politique, le contexte
exactement.
International aussi, probablement.
Et la différence entre un senior et un junior, c'est que le senior, il en a vu d'autres. Et il a cette capacité de discernement qui lui permet justement de regarder avec plus de confiance dans l'avenir que le junior ne va avoir.
Mais ce que je note dans ce que vous dites, c'est que les causes du stress au travail, elles ne sont pas propres à l'interne, en interne, ce sont des causes externes au bureau.
Pas que. Vraiment, il y a aujourd'hui un sujet autour des conditions de travail qui ressort très fortement, qui est lié au fait que, d'abord, les gens ont plus d'exigences quant à leur propre santé mentale au travail. Ils sont plus conscients de ça. Il y a eu un an avant après Covid. Et en face de ça, on a des conditions de travail qui sont de plus en plus exigeantes. Les 3/4 des salariés, dans différentes études, disent que on leur demande de faire plus avec moins. Et c'est aussi une source majeure aujourd'hui de surcharge et de toutes les conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure en matière de santé. Donc aujourd'hui, on a vraiment ce rapport, une tension entre plus d'exigences des salariés dans leur travail et un travail qui est plus exigeant. Donc on n'a pas trouvé encore le compromis, et je pense que c'est la question de l'efficacité. Quand on demande aux gens, est-ce qu'ils veulent travailler moins, est-ce qu'ils veulent travailler plus dans leur travail, les gens disent non, je veux travailler mieux pour les 3/4.
Finalement. Ce qui est une bonne réponse au final.
C'est une bonne réponse. Finalement.
On va retourner au standard. Tristan, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Quelle est votre question ou témoignage ?
Alors j'ai deux interventions. La première, c'est que je suis d'accord avec votre intervenant immédiatement là qui dit que la répercussion au travail, c'est aussi quelque chose qui vient de la société. C'est-à-dire qu'un salarié qui est pas content au travail, souvent c'est un salarié qui est pas content dans la société globale.
La question de l'avenir en question.
Et ouais, absolument, absolument. Et la deuxième chose, c'est que je suis patron d'une petite entreprise. On a 7 salariés et on a installé récemment des outils de bienveillance auprès de nos salariés, comme par exemple une application pour la prévention des troubles musculo-squelettiques, donc le mal de dos sur des salariés qui sont assis une grosse partie de la journée, qui s'appelle Dos à Dos, bon, et qui leur permet de faire des exercices ensemble. Enfin, moi, des fois, je participe avec eux et ça fait un peu de bienveillance et ça aide les salariés dans leur quotidien. Et franchement, ça n'est pas un investissement majeur.
Eh bien, merci Tristan, et merci de cette transition, parce qu'après le constat, on va parler aussi des plans de prévention contre la souffrance au travail. Je lis que les actions de prévention au bureau ont un impact positif, et Tristan en témoigne encore. Je me tourne vers vous, Camille Puech. Quels sont ces actes de prévention en général bénéfiques aux salariés ?
Alors, y a, quand on fait de la prévention de la santé mentale au travail, on agit à 3 niveaux. Les 3 niveaux, ils sont très simples. Le tertiaire, c'est quand il y a un problème, on s'en occupe, on s'en préoccupe et on porte assistance à la personne.
On ne laisse pas traîner.
Exactement. Le deuxième niveau, c'est de prévenir de l'existence des risques et de donner aux gens les outils pour s'en prémunir et éviter d'en causer à autrui. Et le troisième niveau, c'est de penser l'organisation du travail, c'est ce que précisait Christophe Nguyen, de manière à éviter la survenance des risques. Et ces niveaux de prévention, en fait, quand on les met en œuvre, et c'était un des objets de cette étude, c'était de vérifier, parce qu'on a besoin de chiffres un moment pour savoir où agir, vérifier si ça marchait. Et l'étude nous montre que déjà, il y a seulement 23% des Français qui sont exposés à un niveau de prévention global, primaire, secondaire et tertiaire. Donc, c'est 77% n'ont pas ce dispositif global, c'est ce qu'on attend. C'est 11% dans le secteur de l'enseignement. Tout à l'heure, l'auditrice parlait. Donc, l'enseignement, c'est un secteur qui est particulièrement mal équipé sur ces questions de prévention de la santé mentale. Et quand on regarde les résultats que ces dispositifs de prévention vont avoir sur les collaborateurs, déjà, on a 84% des personnes qui estiment que ça les a aidés dans l'amélioration de leur santé mentale. C'est énorme.
Des gens Donc c'est efficace, qui
le montrent. Et on retrouve sur les statistiques, plus 26% de personnes en bonne santé mentale, plus 20% de salariés engagés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, effectivement, Christophe Nguyen. Vos cabinets respectifs interviennent d'ailleurs auprès des entreprises pour gérer cette anxiété au travail. Par qui êtes-vous les plus sollicités ? Par quel type d'entreprise ?
Plutôt les grosses. Plutôt les grandes entreprises internationales qui sont soumises à des exigences légales plus fortes aussi, et parce qu'elles ont plus de moyens. Aujourd'hui, on voit qu'elles ont beaucoup moins de stress au travail que dans les petites. Ça se voit aussi dans l'absentéisme pour des motifs psychologiques. Malakoff Humanis avait publié des rapports sur les motifs des absentéismes et les taux, et qui sont très élevés, beaucoup plus élevés dans les TPE et les PME que dans les grandes. Parce que les grandes se sont organisées, elles ont mis des comités de pilotage, elles ont inclus les partenaires sociaux généralement dans cette réflexion. Elles elles ont des accords sociaux sur ce sujet, elles ont des médecins, souvent, du travail, des psychologues, et elles mettent en place des plans de prévention pluriannuels. Il n'y a pas de secret, quand on met les moyens et qu'on les suit, on suit les résultats, on peut en avoir.
Coup de mou au bureau du stress et de l'anxiété, c'est la conclusion de cette dernière étude dont on parle jusqu'à 20h sur France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne.
0145 24 7000, je l'ai dans l'ordre, avec Samuel qui est en ligne. Bonsoir Samuel.
Oui, bonsoir.
Votre témoignage.
Alors, merci déjà de m'accueillir.
Avec plaisir.
Très intéressant l'émission. Moi, ça me parle beaucoup parce que je travaille aussi sur la prévention des risques psychosociaux au titre individuel et sur les entreprises. J'accompagne des personnes qui souffrent de stress, de burn-out ou de stress post-traumatique avec des protocoles scientifiquement éprouvés. J'essaye de contacter les entreprises pour développer ça auprès de leurs salariés et de leurs dirigeants. Et j'entends souvent de la part des salariés, c'est un déni ou une fin de non-recevoir des managers, des N plus 1, N plus 2, et parfois même des dirigeants qui ne veulent pas reconnaître qui peuvent être soumis à du stress et à du stress régulier. Je veux dire, dans les PME, il y a aussi une énorme pression de stress et de risques psychosociaux qui pèsent sur les épaules des dirigeants. Donc, ce que je voudrais savoir, ma question est la suivante. Comment est-ce que on peut faire prendre conscience à ses dirigeants, à ses managers, des actions à entreprendre et des actions qu'on peut entreprendre?
Merci de ce témoignage et de cette question, Samuel, que je vais soumettre à nos invités, d'autant qu'ils sont à la tête de cabinets respectifs qui interviennent auprès des entreprises. Est-ce qu'il est facile, je me tourne vers vous, Camille Puage, pour commencer, est-ce qu'il est facile de convaincre un dirigeant d'entreprise de prendre la santé mentale de ses salariés en compte?
Alors, j'ai envie de dire oui et non. Si c'était facile, on l'aurait déjà fait et on n'aurait plus de problème. Donc, ce simple constat montre déjà que l'exercice est ardu. Maintenant, oui, parce que on a aussi beaucoup progressé sur les questions de la santé mentale. La Covid a été extrêmement vertueuse. Le témoignage qu'on avait juste avant d'un chef d'entreprise en est un des exemples. Les gens sont beaucoup plus conscients des choses. En revanche, il faut, somme toute, présenter le sujet par rapport aux enjeux de l'entreprise, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de cette étude, on a présenté ses effets sur l'engagement au travail, sur la capacité à un individu d'être concentré au travail, d'avoir de l'énergie au travail.
Je fais une parenthèse parce qu'il faut le préciser.
Oui,
le stress au travail, c'est moins de concentration évidemment, et ça a un coût pour l'entreprise.
En fait, ça c'est incroyable. Vous prenez quelqu'un qui est en mauvaise santé mentale, vous prenez quelqu'un qui est en bonne santé mentale, vous passez chez les gens qui sont en mauvaise santé mentale, vous avez à peu près 39% des gens qui ont une bonne capacité de concentration. Vous prenez les gens en très bonne santé mentale, ça monte à 95%. Donc l'enjeu de la santé mentale, il est évident. Et la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale pour la Santé, est très claire. La santé mentale, c'est l'état de bien-être qui permet à chaque individu de développer son potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, d'être productif et d'avoir du succès et d'apporter une contribution à la communauté. Ça, si ce n'est pas un enjeu de chef d'entreprise, je ne sais pas ce que c'est.
L'OMS qui effectivement recommande de former les cadres aux questions de santé mentale pour qu'ils perçoivent mieux la détresse émotionnelle au travail, Christophe Nguyen, visiblement, ce n'est pas encore une évidence pour tous les managers.
Non, de plus en plus pour les managers de proximité, je dirais, hein, ceux qui s'occupent au quotidien et qui ont à gérer les situations individuelles de leurs collaborateurs, une démotivation, un problème de santé, et qui ont besoin d'être soutenus. Hein. Et ça, c'est une prise de conscience qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années. En revanche, là où il y a un plafond de verre, c'est parfois au niveau des directions générales, en effet. Elles peuvent considérer que c'est un sujet qui est un peu doloriste, qui est négatif, et ils se posent la question sur leur rôle en termes de prise en charge de sujets, parfois qu'ils considèrent être personnels ou individuels.
Et les directeurs des RH, eux n'ont pas ça dans leur viseur ?
Pas toujours. Et alors, déjà, les DRH sont pas toujours dans les comités de direction. Hein, c'est ça aussi le sujet. Ils n'ont pas forcément l'opportunité de pouvoir porter ce sujet à un niveau-là. Et la prévention, ce que je trouve aujourd'hui, mais même si ça bouge dans les grosses boîtes en particulier, n'est pas assez vue comme étant stratégique. Hein. C'est pas juste une application, c'est pas juste un temps de repos, c'est pas juste être bienveillant. C'est aussi des méthodes, des approches qui peuvent permettre aux gens d'être plus efficaces. Il faut parler du travail et de faire en sorte que la santé se dégrade pas à cause de ça. et de mettre en place les conditions de travail qui permettent que ce soit durable pour les personnes, qu'elles y trouvent du sens. Souvent, on entend des dirigeants qui peuvent dire sur le sens, moi je donne des objectifs, je donne de la rémunération, je suis présent, je suis là, mais finalement, ça ne convient pas, ils me disent le sens du travail ne me va pas. Et si on voit des témoignages de vos auditrices, là, ou de certains auditeurs, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut un dialogue autour du travail, c'est quoi le sens ? Qu'est-ce que tu attends ? Qui n'est pas le même en fonction des différents métiers.
On vient de parler des managers, est-ce que les salariés également ont une bonne connaissance de ce que signifie la santé mentale au bureau et des droits, des soutiens auxquels ils ont droit ?
De plus en plus, effectivement, c'est clair qu'il y a des grosses organisations, les entreprises sont organisées, il y a des représentants du personnel, la médecine du travail, une assistante sociale, des psychologues, et les salariés, effectivement, il y a un avant-après Covid, aujourd'hui, sont beaucoup plus attentifs sur des bonnes pratiques qu'ils peuvent mettre en œuvre. On le voit chez les jeunes générations aussi, et chez notamment les femmes, Camille, tu en parlais tout à l'heure, qui sont beaucoup plus enclins à pouvoir travailler sur ça et être vigilante contre leurs propres signaux en tant que tel de santé mentale.
On va retourner au standard 01 45 24 7000. Marie nous appelle de La Réunion. Bonsoir Marie.
Bonsoir. Un témoignage de mon côté. Voilà, moi je suis membre d'un CSE dans une société de production audiovisuelle. On avait des rapports qui étaient très conflictuels avec beaucoup de souffrance au travail d'un certain nombre de salariés. Et en tant que membre du CSE, on a réussi avec la direction à mettre en place un dialogue qui est constructif, gagnant-gagnant, où la direction est attentive finalement aux souffrances des salariés, mais on ne voit pas ça comme un simple caprice, mais bien comme quelque chose qui peut augmenter la productivité de la société. Et vice-versa, les salariés ont compris les enjeux de l'engagement qui était le leur au sein de la société. On a réussi à régler beaucoup de choses, grâce au dialogue notamment. Et puis en plus, on a pu très rapidement mettre des études de qualité de vie au travail en place, des formations de managers pour savoir comment s'adresser aux salariés, etc. Et ça va beaucoup mieux aujourd'hui, l'ambiance est vraiment bonne. Et tout le monde est très engagé dans un milieu où en plus les métiers sont en grande évolution avec toutes les nouvelles technologies qui existent dans l'audiovisuel, dans la production audiovisuelle.
Est-ce que je peux vous demander si, pour trouver cet accord entre les salariés et la direction, vous avez fait appel, vous aussi, à un cabinet conseil ?
Au départ, non. On a voulu commencer d'abord par leur montrer qu'on n'était pas de blanche et qu'on travaillait tous dans le même sens. C'était important de ne pas avoir tout de suite un intervenant, un intermédiaire extérieur. Et puis, très naturellement, comme en fait, il y a plein de choses qui sont de l'ordre... C'est un métier, un cabinet conseil, il a une vision globale à la fois du côté des patrons et des salariés. On a ensuite donc fait appel à un cabinet conseil qui nous suit encore aujourd'hui, qui nous accompagne justement sur les formations et qui fait l'intermédiaire et tout ça avec un grand enthousiasme des deux côtés.
Merci beaucoup Marie de ce témoignage. Vous appelez de la Réunion. Ce qu'on entend ce soir chez les auditeurs, c'est que ce stress et cette anxiété arrivent y compris parmi des personnels qui semblaient jusqu'ici pouvoir y échapper dans l'audiovisuel. Sauf que tous les métiers changent.
Tous les métiers sont concernés, en fait. C'est un sujet de société et on voit dans son témoignage que ça n'est pas une opposition entre l'économie et la santé de l'individu. En fait, c'est un enjeu conjoint. Et son témoignage est très intéressant. Et je l'invite à télécharger l'étude sur le site de Kelly Social parce qu'elle verra beaucoup d'éléments qui vont nourrir sa vision de comment concilier la santé de l'individu et le fonctionnement de l'organisation. Mais en fait, c'est une évidence. Il n'y a plus besoin d'aller chercher de l'information. L'information existe. Maintenant, l'enjeu, et c'est pour ça qu'on fait une grande cause nationale sur la santé mentale, c'est de diffuser l'information. Il faut éduquer notre société à ce qu'est la santé mentale et l'incidence que la santé mentale a sur notre capacité à agir et à faire face aux difficultés auxquelles on est confronté.
Je reviens à ma question, est-ce que tous les chefs d'entreprise, est-ce que tous les cabinets sont prêts à diffuser l'information ? Comment ? Comment est-ce qu'on diffuse cette information ?
Oui, le problème, c'est que quand même, les gens trouvent sur Internet à boire et à manger, et il faut effectivement permettre de faire une certaine forme de pédagogie, je pense.
Et quand vous dites à boire et à manger, c'est qu'il y a des...
Vous parliez tout à l'heure de termes qui n'étaient pas scientifiques, mais qui ont été diffusés par tout le monde, et tout le monde parle de burn-out sans forcément toujours bien déterminer ce que c'est. Et je pense qu'il faut utiliser les bons mots pour les bons mots MAUX, on va dire. Mmh. Et donc là, il y a une question de pédagogie et de pouvoir, d'un point de vue de la santé publique, des pays le font pour également mettre en place des campagnes pour augmenter la prise de conscience et la vigilance en termes de santé publique de ces sujets, y compris auprès des dirigeants pour qu'ils soient acteurs de cette santé publique également en tant qu'entreprise responsable.
Julien nous appelle de la Nièvre. Bonsoir Julien.
Oui, bonsoir.
Vous êtes à l'antenne.
Merci d'avoir pris mon appel. Alors, moi, je suis fonctionnaire du ministère de la Transition écologique. Et il y a 2 ans, sur mon premier poste que j'occupais, j'ai un peu souffert de burn-out, hein, c'est-à-dire que j'avais plus d'activité sur mon poste. Je demandais à effectuer les missions qui étaient sur ma fiche de poste. Mes supérieurs hiérarchiques me freinaient dans ce que je voulais faire. Tous les échelons de ma hiérarchie le savaient, que ce soit la direction, chef de service, chef d'unité, tout le monde. Mais ça ne bougeait pas. J'ai demandé une mutation où j'ai obtenu un avis défavorable de ma direction. Et s'en est suivi 6 mois d'aller-retour entre la direction, les syndicats pour que ça passe. Et bon, voilà, depuis, j'ai réussi à muter et fuir cette situation.
Merci beaucoup de ce témoignage. Ce que je retiens, Camille Puech, c'est que finalement, une mauvaise santé mentale, ça aussi, comme un engrenage, un impact, une spirale vicieuse sur l'engagement professionnel du salarié.
Mais oui, et moi. En fait, il n'y a pas d'absence de... Enfin, quand il y a une santé mentale dégradée, il ne peut pas y avoir d'engagement. L'engagement est fondé sur la capacité de l'individu à faire face aux difficultés, à vouloir s'impliquer, à être dévoué. Et tous ces items-là, en fait, se dégradent fortement quand on a une santé mentale dégradée. Moi, ce qui m'interpelle particulièrement dans ce qu'il dit, c'est que... Il dit, tout le monde le savait, ça a traîné. Et c'est un élément qui est déterminant en 2025. Hein, 91% des salariés jugent important ou prioritaire que l'employeur se soucie de leur santé mentale. C'est énorme, hein, on est au niveau du salaire maintenant. Et dessus, il y a un item qui est ultra important qui arrive en haut, c'est ma santé. Et donc le sentiment de sécurité psychique, est-ce que mon employeur se soucie de comment je vis, de comment je vais? C'est un facteur qui est déterminant pour la santé mentale. À la fois, s'il n'existe pas, comme ce que monsieur a vécu, eh bien, une forte dégradation de sa santé mentale. Mais s'il existe, c'est tout l'inverse. En fait, quand l'individu doit faire face à des difficultés, mais se dit « mon employeur est conscient de ce que je vis, se soucie de ce que je vis et il est là pour me soutenir », eh bien, ça va beaucoup mieux.
La qualité de la santé au bureau, au même niveau que les exigences de salaire, vous le vérifiez aussi lorsque vous consultez en entreprise, Christophe Guyenne ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on parle aussi beaucoup de la question du rapport au travail qui a évolué, où le travail aurait une place moins importante dans la vie des gens. Effectivement, c'est ce qu'on a pu constater, pas qu'en France, dans de nombreux pays qui ont vécu la crise sanitaire. Et une des raisons pour lesquelles je trouve il y a cette diminution de l'importance, c'est aussi parce qu'on ne trouve pas ce qu'on veut ou ce qu'on attend. Et les promesses du travail ne sont pas finalement rempli en matière de développement, en matière de reconnaissance, de sens et de santé. Et c'est devenu tellement important comme une valeur cardinale dans la vie des gens que je pense que si on travaillait ce sujet, le rapport au travail serait meilleur et l'engagement aussi serait meilleur. Si les personnes ne s'engagent pas, parce que parfois elles y voient comme une menace hein, à leur propre bien-être.
C'est un sujet qui passionne beaucoup visiblement nos auditeurs. On va retourner au standard. Beaucoup de questions. Pauline, vous êtes en ligne. Bonsoir Pauline.
Oui, bonsoir. J'avais une question notamment par rapport aux PME qui seraient peut-être moins équipées que des grandes entreprises sur ces questions-là. Est-ce que la médecine du travail peut avoir les moyens de créer des alertes et d'interpeller les dirigeants dont elle remarque qu'il y a beaucoup d'arrêts de travail, il y a des conditions de travail qui seraient dégradées?
Merci de cette question très, très précise. Je vais la soumettre à Christophe Nguyen, qui est psychologue du travail en premier. Après, vous répondrez aussi, Camille Puech. Les PME, d'abord, moins équipées que les grandes entreprises,
oui,
c'est clair. Le rôle du médecin du travail.
Alors, souvent, les petites entreprises n'ont pas un médecin du travail dédié dans un service autonome. Hein. Il a un service inter-entreprise dont on sait aujourd'hui, le gouvernement le sait, hein, finalement, il y a une certaine grande difficulté de ce secteur-là parce qu'on manque de médecins et parce que effectivement, il y a des difficultés de renouvellement de ces populations. Aujourd'hui, on a un médecin du travail qui peut gérer peut-être 2 ou 3 000 salariés hein, en tant que tel. Donc, l'idée de pouvoir en faire un alerteur, elle est claire. Il a un rôle à jouer d'éclaireur, d'alerteur, de conseil, mais aujourd'hui, il n'a pas les capacités de le faire. Hein. C'est ça la réalité. Donc, il y a d'autres acteurs. Il y a aussi les représentants du personnel. Normalement, si vous avez au moins 11 salariés, ils doivent
exister.
Il y a des représentants du personnel. Les syndicats, effectivement, aussi, qui peuvent jouer leur rôle. il y a d'autres acteurs, effectivement.
Camille Puech, j'ai une question anonyme à propos des médecins, justement. Oui. En retirant les médecins du travail depuis des années, dit cet auditeur sur WhatsApp, comment s'étonner que la santé au travail soit déplorable ?
C'est plus compliqué que ça, parce que malheureusement, c'est pas seulement on a enlevé les médecins du travail, c'est qu'il y a de moins en moins de médecins du travail, il y a de plus en plus de problèmes. Donc vous avez un effet ciseau où les problèmes augmentent et les solutions, les ressources baissent. Mmh. Donc mécaniquement, ça laisse un écart qui fait que, bah, malheureusement, la médecine du travail peut le faire, mais est-ce qu'elle en a réellement les ressources et les moyens ? Non, clairement non, et ça ne suffit pas. Et nous, quand sur l'étude qu'on a menée, on a regardé effectivement l'équipement des organisations en fonction de leur taille, et ce n'est pas très compliqué. 70% des ETI, les entreprises de taille intermédiaire, oui. Donc, qui ont entre 250 et 5000 salariés, ont au moins un dispositif de prévention. Ça descend à 58% quand on est dans une PME, donc entre 10 et 250 salariés, et à 41% quand on est dans une TPE, une très petite entreprise de moins de 10 salariés. Donc oui, les petites entreprises sont moins équipées en la matière, c'est normal, c'est compliqué, ça nécessite beaucoup d'éducation et aussi des ressources. Et moi, souvent, j'appelle le gouvernement à être attentif à ce sujet et à soutenir par la fiscalité les petites organisations à investir dans les mesures pour la santé de leurs collaborateurs.
Il reste 2 minutes, on va retourner au standard. Bénédicte, bonsoir.
Bonsoir, merci de vos émissions. Je voudrais savoir quand et comment on pourra reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle, voire un accident du travail, ce qui n'est actuellement pas le cas.
Merci de cette question très précise. La réponse de Christophe Engen, qui est psychologue du travail et président du cabinet conseil Empreinte Humaine.
Oui, alors il y a une jurisprudence qui vient de sortir, hein, qui évoque effectivement qu'un médecin peut écrire burn-out, mais il ne peut pas dire que c'est lié au travail, hein, parce qu'il n'a pas fait d'enquête en tant que telle dans l'entreprise.
Donc ça ne peut pas être un accident du travail, comme
ça
dit cette auditrice.
Parce, mais il faut le prouver. Alors c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie c'est un peu complexe, mais des tableaux de maladies professionnelles qui permettent, on va dire, une reconnaissance automatique si une personne s'arrête pour épuisement, par exemple. Par contre, elle peut, si elle fait un burn-out et que la médecine du travail le constate, le médecin traitant, faire des démarches qui peuvent être un peu lourdes et compliquées auprès notamment des CARSA, des CPAM, pour faire reconnaître comme étant de l'origine professionnelle.
Camille Puech, une dernière question concernant la santé mentale. Grande cause nationale du gouvernement, dans votre cabinet, vous en attendez quoi de cette grande cause nationale ?
J'attends que le gouvernement réussisse à sensibiliser finalement notre population, mais les salariés, les managers, les dirigeants, les partenaires sociaux, tout le monde en fait, on a tous besoin d'être sensibilisés, ça c'est ce que j'attends. Et maintenant, je pense que nous aussi, acteurs finalement de ce métier-là, experts du sujet, c'est notre devoir que d'apporter justement les outils pour permettre cette capacité de la société à évoluer sur le sujet. On peut progresser, les outils sont là, ça marche. Maintenant, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne, comment prendre soin de soi, comment prendre soin des autres et comment prendre soin de son organisation.
Je vous pose la question, vous avez 20 secondes, pardon, mais vous en attendez quoi, cette grande cause nationale ?
Moi, j'aimerais effectivement qu'on ait une vision un peu holistique, hein, pardon pour le terme, mais une vision globale, à la fois au niveau de l'éducation, pour nos jeunes, pour l'enseignement, des plans d'action santé mentale, et aussi des indicateurs de santé publique pour savoir si finalement, oui ou non, il y en a plus qu'avant et pourquoi.
Merci beaucoup, Christophe Nguyen, psychologue du travail, président du cabinet conseil Empreinte Humaine. Merci beaucoup Camille Puech, président fondateur du cabinet Cali Social, et on se replongera dans les conclusions de votre étude. Merci beaucoup.